Bretagne Soir, le grand invité sur RCF.
Nathalie Debroc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous avons le plaisir de vous entendre dans cette émission chaque semaine, dans votre chronique Femmes de Bretagne. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour présenter votre livre, Ces femmes qui ont fait la Bretagne, publié aux éditions Ouest France et qui sort précisément aujourd'hui.
Avouez que ça peut que de porter chance. Hein.
Ah ben c'est sûr. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux femmes de Bretagne, Nathalie Debroc?
En fait, il y a 6 ans, je cherchais le livre, je cherchais ce livre-là. J'étais persuadée qu'il existait, puisqu'il y avait des tonnes de livres sur les Bretons et l'histoire, les hommes, hein, je parle. Donc, il y avait toutes les versions des Bretons qui ont fait la Bretagne. Et quand j'ai voulu chercher sur les femmes, parce que je me suis dit peut-être que je pourrais trouver un sujet de livre, de roman, etc., je l'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, parce que quand j'ai vu tout ce qu'elles avaient fait, les femmes, j'ai eu envie de leur rendre hommage et j'ai commencé à me bagarrer pour trouver un éditeur et pour le faire.
Certaines avaient quand même une place
elles ont la place, elles ont leur place. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas un livre qui les répertoriait toutes. C'est ça ce que je voulais. Au départ, j'étais partie pour un dictionnaire et puis ça m'ennuyait un petit peu, un dictionnaire. Et c'est de les regrouper. Bien sûr, il y en a plein qu'on connaît, hein, de Jeanne Malivelle à toutes, Véfa Saint-Pierre ou autres, mais pour les retrouver toutes ensemble, pour voir tout ce qu'elles ont pu faire.
Alors, la Bretagne, c'est une région où les femmes ont une importance toute particulière, peut-être par rapport à d'autres territoires.
Je ne sais pas si on pourrait. Je pense qu'on pourrait décliner ce thème-là, ces femmes qui ont fait la Provence ou ces femmes qui ont fait l'Alsace. Je pense qu'il y a la même chose, mais il se trouve effectivement qu'en Bretagne, elles ont une puissance, une force qu'on retrouve peut-être moins ailleurs, du fait de la configuration, hein, du climat, certainement, et puis de la vie n'était pas toujours très facile, on le sait bien, puis les hommes partaient, donc elles ont... Mais je ne rentrerai pas dans le thème du matriarcat, parce que je doute un petit peu de ça. Enfin, je ne suis pas si persuadée que ça. Et parce que la Bretagne, mine de rien, reste quand même une terre très macho. Hein. Mais bon, je pense qu'elles ont... Elles vont au bout de leurs idées, ça c'est certain.
Alors, vous l'avez un peu dit, votre ouvrage n'est pas forcément une suite de portraits, plutôt une multitude d'histoires de femmes qui parfois se recoupent d'ailleurs, c'est assez intéressant. Comment est-ce que vous avez construit ce livre?
Alors, comme je ne voulais pas faire comme un dictionnaire, il fallait que je le fasse par thème. Donc j'ai choisi des thèmes. Alors il y a les légendaires, il y a les ferventes, il y a les femmes de pouvoir, les femmes de lettres, les artistes, les gourmandes, les visionnaires, les inclassables. Et à partir de là, dans chacun de ces chapitres, j'ai essayé de les regrouper de façon chronologique, tout simplement. Mais c'est plus facile, il me semble, de voir ça par chapitre. Et par thème, donc. Et puis après, j'ai écrit un petit peu dans le fil d'une histoire. Chaque chapitre commence à un début et une fin. C'est pas du tout des items qu'on rentrerait et on met les noms en dessous et on raconte leur vie. Voilà. C'est dans le fil d'une histoire.
C'est votre profil ou votre sensibilité de romancière
un peu,
quelque part qui a
un
joué?
Oui, ouais, je crois. J'aime bien raconter des histoires, moi. Alors, il y en avait certaines. Je me suis offert un petit peu plus de lignes que c'était prévu parce que je les aimais, quoi. Et alors, j'ai mes chouchoutes, voilà, dedans, évidemment. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de raconter plus. Je me suis épanchée un peu plus sur la Hélène Jégado, l'empoisonneuse. Parce que l'histoire est, j'allais dire amusante, c'est épouvantable, mais c'est vrai, il y en a d'autres. Il y en a plein qui m'ont parlé.
Hélène Jégado, si c'est...
Alors, Hélène Jégado, 50 empoisonnements a priori à son compte. C'est la première serial killer, je dirais même du 19e siècle, hein, c'est une des premières. Et on n'a jamais vraiment su. Elle a avoué ses empoisonnements. Donc, on est au 19e siècle, on est sous
Vers
Napoléon
1850,
III.
1850, quelque chose comme ça.
Voilà. Et en fait, mais on ne sait pas pourquoi. Elle avait 7 ans quand elle a été placée. Bon, elle a perdu sa mère. Elle a été placée, chez un oncle qui était dans un presbytère. Et puis, de fil en aiguille, elle a toujours été servante. Et, Elle faisait très bien la cuisine, elle faisait, paraît-il, des très bons gâteaux. Mais dans ces très bons gâteaux, bah, elle laissait passer un petit peu de salpêtre, un petit peu de mort au rat, et puis voilà, et c'était juste normal. Mais alors, en revanche, elle était d'un dévouement pour soigner les malades. Dès qu'ils commençaient à avoir des vomissements, elle était aux petits soins pour eux, elle les soignait très très bien. Et puis, dès qu'ils mouraient, bah, elle suivait à l'enterrement. Elle suivait le corbillard, et puis elle allait se placer dans un autre endroit où elle recommençait son manège, et les gens commençaient à décimer d'une façon incroyable. Mais alors, par contre, personne n'a fait la relation de cause à effet.
Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, parce que c'était pas très subtil quand même. Il pouvait y avoir plusieurs personnes,
mais,
en fait.
Mais parfois, il y a une famille, il y en a eu 8 quand même, hein, sur 3 mois. Sauf qu'il faut bien voir que c'est une époque où, par exemple, les enfants meurent en bas âge, les femmes meurent en couche, il y a le choléra, il y a plein de maladies. Donc, la mort, tout le monde est très habitué. Donc, qu'il y ait 8 personnes qui décèdent, bah, c'est l'eau, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est pas arrivé. Et puis, il y a eu un jour, elle a été, on le sait pas, le destin bascule, elle a été confrontée à ça, hop. Et alors là, par contre, déchaînement dans l'autre sens, là où elle était, oh, cette pauvre Hélène, elle est tellement compatissante pour tout le monde, tout d'un coup, elle ne l'était plus du tout, et tout le monde s'est déchaîné, et elle a été évidemment emprisonnée, puis après, elle a été guillotinée, hein, et dans le plus grand silence, ça c'est un truc très impressionnant. Le jour où elle a été exécutée, on imagine souvent que les gens, vous savez, on disait autrefois les tricoteuses qui parlent, qui disent à mort, etc. Là, paraît-il, silence total. Tout le monde était complètement tétanisé devant cette femme.
Alors, vous mettez d'ailleurs une illustration, hein,
oui,
de
le masque
journal,
mortuaire. Voilà. C'est impressionnant quand
c'est
même.
C'est impressionnant,
hein.
Et ça permet de signaler que cet ouvrage est magnifiquement illustré aussi. Oui. Il y a eu tout un travail de
le service d'archives. Iconographie d'Ouest-France a été exceptionnel. Ça, je dois dire, vraiment exceptionnel. Et j'étais pas toujours d'accord, mais après, j'ai toujours obtempéré parce que vraiment, il était exceptionnel.
Ils avaient du métier. Alors, puisqu'on parlait là, il y a quelques secondes de votre sensibilité de romancière, c'est assez étonnant de découvrir l'immense contribution des femmes de Bretagne, en fait, à la littérature, sous des formes assez variées, à commencer par la poésie, évidemment.
Oui, bah, Angela Duval, hein, c'est la numéro 1, évidemment. Mais c'est vrai que les femmes de Bretagne sont des femmes de lettres. Il y en a énormément. Et je parierais, et je suis certaine de gagner, il y a très peu de gens qui le savent. Il y a eu, on a de Zénaïde Fleuriot, en passant par Madame de Pomprix, il y avait les prolifiques, il y en a eu plein, qui publiaient au 19e siècle beaucoup, pour la plupart, sous un nom d'emprunt masculin, parce que sinon elles ne seraient pas passées, hein, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on ne le sait pas non plus. Et puis, c'est peut-être la différence entre hommes et femmes, mais là on va un petit peu m'accuser d'eux, mais tant pis. Les femmes la ramènent moins quand elles font quelque chose. Et ce qui fait que voilà pourquoi c'est passé. Et puis très souvent on dit oh bah oui c'est des bas bleus, hein, elles font ça pour leur plaisir. Mais effectivement il y a énormément de romancières, mais c'est incroyable même, qui sont pas du tout passées à la postérité et qui pourtant en leur temps ont très très bien gagné leur vie. Il y a Gyp, le mariage de Chiffon. Vous êtes beaucoup trop jeune, mais quand j'étais toute petite, eh ben moi je lisais le mariage de Chiffon parce que c'était génial. Il y a plein de trucs qui sont passés et qu'on a oubliés.
Avec tout un travail sur la littérature jeunesse aussi que j'ai pu découvrir.
Bien sûr, oui. La semaine de Suzette, mais c'était hyper connu. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est pas passé. Voilà, ça. Ça n'a pas passé la rampe.
Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de Madame de Pomprix. Alors, c'est aussi cet art de la correspondance aussi qui est mis en valeur.
Madame de Sévigné, quand même.
Absolument.
C'est incroyable. Hein. Elle a écrit des mois, parce que je ne suis pas... 798 lettres, je crois, quelque chose comme ça. Alors, elle écrivait à son cousin. C'est une quimpéroise. Et elle a écrit pendant... de 1700... Je ne voudrais pas me tromper, parce que les dates, je ne suis jamais très bonne. De 1750, au-delà de la Révolution... Mais alors, la Révolution, ça m'a fait vraiment penser quand j'ai lu son livre, ça s'appelle « À mon cousin », elle n'a jamais évoqué la Révolution, ou juste parce que ça l'ennuyait, elle n'avait pas pu aller à sa leçon de musique. C'est à peu près comme Louis XVI qui disait le jour du 14 juillet, RAS. Mais elle, c'est passé complètement. Non, elle était tranquille, la vie était belle et elle écrivait ses lettres. Mais ça donne une idée de ce qui pouvait se passer dans la Basse-Bretagne à l'époque, quoi.
Voilà, c'est aussi une chronique
sociale. Voilà, et puis
sociale,
plein d'humour et plein de
légèreté. Et c'est mordant.
Oui, voilà. C'est moins, beaucoup moins mordant que Madame de Sévigné. Madame de Sévigné était méchante avec la Bretagne. Elle a dit « Il passe plus d'eau sous les ponts que de vin sur le corps d'un Breton ». D'accord. Voilà. Donc, voilà.
Alors, on vous retrouve dans une petite minute pour continuer à parler, Nathalie Debroc, de ce livre paru aux éditions Ouest France. Aujourd'hui même, ces femmes qui ont fait la Bretagne.
Bretagne Soir, l'invité de votre région sur RCF.
Vous êtes toujours sur RCF dans cette émission Bretagne Soir. Nous sommes encore avec Nathalie Debroc. Alors, vous avez commencé ce livre, Ces femmes qui ont fait la Bretagne, par celles de la matière de Bretagne, comme on dit, le cycle arthurien, mais aussi les femmes de pouvoir également. On pourrait citer la première d'entre elles, la duchesse Anne. C'était important de commencer par là.
Je crois que c'était incontournable. J'ai beaucoup réfléchi parce que je ne savais pas trop, mais c'est quand même... Elle, on dit encore, vous savez bien, il y a une rumeur qui continue, mais qui est presque dans l'inconscient collectif. On dit qu'on ne paye pas les autoroutes, les voies express grâce à Anne de Bretagne. J'ai cherché, hein, je suis pas persuadée de ça, mais ça fait rien. On continue d'y croire et c'est pas désagréable. Donc, elle est quand même pas que pour ça, mais elle est fondatrice. Elle a tout fait pour sa Bretagne. Et ce qui est le lien de toutes ces femmes, c'est qu'elles ont vraiment aimé leur Bretagne. Et c'est ce qui transparaît dans leur vie, dans leur biographie. Moi, ça m'a beaucoup émue et je n'en revenais pas de ça. Et j'avais envie vraiment de transmettre ça. Il y a aussi les résistantes. Je peux vous dire qu'en écrivant, ça a été bouleversant pour moi. Ça a été l'horreur d'écrire ce truc-là. J'imaginais pas le nombre de femmes résistantes bretonnes, il y en a. C'est incroyable.
Alors c'est vrai, Brest vient de fêter l'anniversaire de sa libération et puis on est globalement dans cette période-là. Les femmes ont joué un rôle majeur effectivement dans la résistance. Certaines ont eu des rôles très stratégiques. Je pense à Alice par exemple.
Oui, tout à fait.
Il me semble dans le secteur de
oui,
Brest.
Oui, elle y est. Oui, oui, oui. Mais il y en a plein. Il y a elles ont joué un rôle stratégique. Ce qui est quand même j'allais dire terrible, je ne sais pas si c'est vraiment terrible, mais en général, elle disait toujours, la résistance connaît pas, j'ai juste fait travailler, quoi. Et c'est incroyable, ça. Et on peut voir qu'elles ont, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont mortes, torturées. Ça, alors là, il y en a pléthore et j'en revenais pas d'écrire ça. Des très jeunes, des 17 ans, c'était... Pour maintenant, on se dit que c'est l'histoire, mais essayons de nous replacer dans le contexte de la guerre. Je ne sais pas, c'est les adolescentes qu'on voit maintenant dehors, qui sortent des lycées. C'est incroyable ce qu'elles ont pu vraiment donner de leur vie. Et je vous disais, elles ont aimé la Bretagne. Alors là, pour le coup, elles l'ont aimée et jusqu'à mourir. Pour ça, pareil, peut-être quelque chose qui est désuet maintenant, mais ça faisait pas de mal de le rappeler, de faire une petite piqûre de rappel.
Alors certaines très jeunes, d'autres très âgées, en fait, Marie Béranger, par exemple.
Oui, à 77 ans, et elle continue. Et puis en plus, elle s'est fait arrêter, elle a été torturée, et je t'en fiche, elle y retourne et elle rempile, elle recommence parce qu'elle a rien à perdre, je suppose, parce qu'elle se dit. Et puis bon, il y avait les maîtresses femmes, quoi, et elle y va. C'est là où on se dit, mais chapeau, quoi. Donc c'était normal de leur rendre hommage.
C'est quelque part un héritage, un caractère en fait des femmes de Bretagne. Ouais. Au fil du temps, on parle un petit peu plus loin également des hors-la-loi,
oui.
des Jeanne Laflamme, toutes ces Marion Dufaouët évidemment.
Bien sûr, elle est très connue, hein, Marion Dufaouët. Donc je vais moins raconter, mais par exemple Jeanne de Belleville. On lui donne, mais il y a de quoi. C'était vraiment la femme la plus douce, la plus cultivée, etc. possible. Et un jour, le roi de France lui fait apporter la tête de son mari. Et son mari, c'était son deuxième ou troisième mari, mais c'était l'amour de sa vie. Et tout d'un coup, cette femme-là, elle va devenir mais une tigresse. Elle est atroce. Elle tue tout ce qu'il y a. Qui appuie le roi de France. Elle va sur les mers, elle laisse les bateaux fantômes avec tout l'équipage décimé. C'est abominable, mais par amour. Et en même temps, vous vous rendez compte, quand je raconte ça, on se dit, on va quand même pas très sympathique. Ben oui, mais on la comprend, quoi. Et du coup, ça devient une héroïne. qu'on aime, quoi. Et c'est presque ce tempérament-là. Ouais, je sais pas si c'est breton, mais peut-être... faut pas les chatouiller, quoi. Hein? On dirait ça. C'est un peu ça. Les femmes bretonnes, je pense qu'il ne faut pas les chatouiller.
Un caractère un peu comme le climat, bien,
voilà,
bien trempé.
Exactement.
Alors, quand on parcourt ce livre, et ce sont plus d'une centaine, entre 100 et 200 femmes,
200,
plus de 200,
200
femmes,
oui,
qui sont présentées dans ce livre, ces femmes qui ont fait la Bretagne, on se dit qu'il en faudrait quand même plus dans les noms de rue, de places, il faudrait plus leur rendre hommage aujourd'hui.
Vous avez vu combien il y a de femmes dans les noms de rue ? Je le dis il y a 2% de femmes dans les noms de rue, en France. Non, mais il y a du boulot quand même. Hein.
Il faut peut-être s'y mettre. Ça inspirera peut-être, espérons-le.
J'espère, et qu'ils ne leur donnent surtout pas des noms d'impasses, si possible. Mais des boulevards, elles le méritent.
Merci beaucoup Nathalie Debrock. Donc je rappelle,
merci à
ces
vous.
Femmes qui ont fait la Bretagne, ce livre qui vient de paraître aux éditions Ouest France. Et puis on va vous entendre dans quelques minutes pour votre chronique hebdomadaire. Évidemment, on va s'intéresser à une dessinatrice hors pair cette semaine.